L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor Radio Évasion. Radio Évasion change de nom. Le LEM, c'est toujours à midi, c'est rediffusé à 18h et aujourd'hui le sujet est très radiophonique. Il est bien question de son, de la science du son, à savoir l'acoustique. C'est l'un de nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui. Il est aussi musicien à 16h, c'est par la musique qu'il est venu sur nos ondes. Il a travaillé longtemps à l'acoustique des navires de la Marine Nationale. Aujourd'hui, il navigue vers d'autres horizons, mais il reste un ingénieur acousticien et il va nous expliquer les tenants et les aboutissants de son métier. Nous serons donc tout ouïe en compagnie de Stéphane Gothard. Bonjour Stéphane.
Bonjour Véronique.
Alors, ingénieur acousticien, on a du mal peut-être à se représenter ce que c'est, mais on ne va pas tellement aborder le métier que l'acoustique. En radio, forcément, ça nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on forme des gens à l'acoustique et notamment des ingénieurs acousticiens? Quels sont les intérêts?
C'est une science qui date depuis assez longtemps, sauf que on a été peu formé sur le sujet. On a fait pas mal de formations sur les thermiciens, par exemple, avec les problématiques de chaleur. Enfin voilà. Et en fait, la chaleur et l'acoustique, c'est à peu près le même sujet. Et sauf que les thermiciens, il y en a plein, et puis les acousticiens, il y en a assez peu. Et donc, le métier de l'acoustique, c'est se préoccuper de problématiques de bruit, que ce soit dans les avions, dans le transport, dans les rues, dans les bateaux, voilà.
Et alors, on a deux raisons principales de s'intéresser à l'acoustique, et je pense qu'on s'y est d'abord intéressé pour des raisons, entre guillemets, militaires. Enfin, les premières raisons de s'intéresser à l'acoustique, c'est de l'ordre de la discrétion, c'est ça?
Exact, oui, oui, tout à fait. C'est... pour éviter qu'un bateau militaire soit détecté par un sous-marin ou qu'un sous-marin ne détecte un bâtiment en surface, il y a eu des objectifs de discrétion pour que les bateaux fassent de moins en moins de bruit. Donc il y a eu des progrès qui ont été faits dès le début du XXe siècle dans le sujet. Et voilà, donc,
c'est à ce moment-là que l'ingénieur acousticien est né, c'est ça, début du XXe siècle, ou en tant qu'ingénieur, vraiment ouais.
Non, il est même né un peu plus tard, je pense. Il est né un peu plus tard. Donc les premières écoles, en fait, sont nées dans les années 60, 70 sur le sujet. Mais elles ont profité, en fait, de toute l'expérience un peu... expérimentale qu'avaient fait les militaires sur le sujet. Donc on a profité de tout ça, mais oui, c'est une science qui quand même date pas de 1914 ou 1945, elle date du XVIe siècle, quoi.
Ah bah oui, mais là, au XVIe siècle, c'était peut-être plutôt pour bien entendre les chants dans les églises ou des données comme ça. Même il paraît que les hommes préhistoriques étaient très sensibles à l'acoustique des grottes. Les archéologues ont réussi à le savoir à peu près. Donc
oui.
Voilà.
Ouais, tout à fait. Donc il y a une histoire qui est assez incroyable, c'est que le premier acousticien de France, on va dire, c'était Marin de Marsenne, qui était un moine dans une abbaye au Mans, en Sarthe. Et il a fait ses premières études acoustiques au XVIe siècle, c'était en 1550, quelque chose comme ça. Et donc ça a été le père de tous les acousticiens de France. Souvent, les acousticiens citent toujours Marin de Mersenne. Voilà, c'est marrant.
Et lui, il travaillait pourquoi? Enfin, pourquoi il s'intéressait à l'acoustique? C'était pour les chants grégoriens?
Alors, bizarrement, on aurait pu croire qu'il s'intéressait à l'acoustique par rapport à l'acoustique des salles, qui est un domaine très particulier. L'acoustique des salles, c'est comment optimiser le son dans une salle. Enfin voilà, ça c'est un métier très particulier. Et en fait, pas du tout. Lui, il s'est préoccupé de l'acoustique déjà à l'époque, sur la problématique de nuisance sonore. Ouais. Et oui, et il s'est occupé de nuisances sonores. En fait, quand il y avait une charrette qui passait à 500 mètres de l'abbaye, bah, il s'est demandé pourquoi l'abbaye entendait autant le bruit de charrette.
Et donc, ça dérangeait la prière, en fait.
Et ça dérangeait la prière, exactement. Ouais. Donc il s'est plutôt préoccupé de confort, ce qu'on appelle le confort acoustique, plutôt que de discrétion. Enfin voilà, il s'est plutôt préoccupé de confort.
Et il a trouvé des systèmes déjà pour améliorer l'acoustique.
Oui, il a mis en équation des trucs. Enfin, c'était un sacré monsieur.
Ouais. C'était un scientifique. Oui, ouais, mais c'était souvent les moines qui étaient les scientifiques. Alors, pour en revenir à notre question sur la discrétion, c'est-à-dire la réduction du bruit qu'on émet vers l'extérieur, il y a aussi une préoccupation maintenant d'écologie, de perturbation du milieu, notamment pour les bateaux. J'imagine que les bateaux, on se préoccupe, dans les bateaux les plus récents, on se préoccupe du fait qu'ils émettent le moins de bruit possible, c'est ça?
Oui, en particulier pour les bateaux de pêche, parce qu'effectivement, plus un bateau fait de bruit, plus il va faire fuir les poissons. Donc on essaie de faire des bateaux de plus en plus discrets. Ce sont, dès la conception, ce sont des solutions de suspension de toutes les machines tournantes qui sont à bord pour éviter que toutes les vibrations des machines,
tous les moteurs, on les met sur ressort, c'est ça?
C'est ça, exactement. On les met sur les suspensions des ressorts, voilà, mais on les suspend et pour éviter que les vibrations se transmettent à la coque, et voilà, parce que si un bateau fait du bruit, bah il fait fuir le poisson. Donc, voilà.
Et la coque elle-même, elle est. Il y a des techniques, j'imagine, pour que ça isole un peu plus l'intérieur du bateau par rapport à l'extérieur, à la mer, pour que le bateau émette moins de bruit ou qu'il glisse mieux dans l'eau sans faire de bruit.
Alors pas à l'extérieur, en fait, tout se fait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on suspend toutes les machines qui sont à bord sont suspendues, comme vous dites, montées sur ressort. En gros, hein, c'est un peu ça, elles sont montées sur des ressorts, et elles sont montées des fois sur un ressort, puis deux ressorts, enfin voilà, c'est doublement suspendu, et ça évite aux vibrations de se propager. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu compliqué de revêtir ouais. La coque de revêtements spécifiques, donc on fait tout de l'intérieur.
Mais il n'y a pas des doubles coques à l'intérieur, justement? Je ne sais pas, on ne met pas du polystyrène à l'intérieur du bateau?
Ah non, là vous dites un gros mot, en fait, voilà.
Oui,
vous dites un gros mot, polystyrène. Parce qu'en fait, les gens pensent que le polystyrène est un isolant acoustique, et ce n'est pas du tout un isolant acoustique. Alors, souvent, les isolants thermiques sont de bons isolants acoustiques, sauf le polystyrène.
Eh ben oui, pas de bol.
Voilà. Le polystyrène n'est pas du tout un bon isolant acoustique. C'est même le pire ennemi de l'acoustique. Donc, si vous voulez isoler votre maison, votre appartement, surtout pas de polystyrène. Mettez plutôt de la laine de verre ou de la laine de roche, mais pas de polystyrène, surtout pas.
On s'est noté. Alors, il y a aussi certains yachts, là on entre dans la marine de luxe, qui sont taxés s'ils émettent trop de bruit, c'est ça, dans les ports? Et vous avez travaillé notamment pour ces bateaux?
Oui. Alors ça a commencé déjà dans l'aviation. En fait. Donc les avions sont taxés au décollage et à l'atterrissage en fonction du bruit qu'ils émettent. Et ça a fait ses petits dans la marine. Un truc qui n'existait pas en fait. Ça fait longtemps que ça existe dans l'aviation, mais dans la marine ça n'existait pas. Et donc, des bateaux arrivent dans les ports et sont taxés, aujourd'hui, c'est assez récent, mais sont taxés en fonction du bruit qu'ils émettent. Et donc, tout l'intérêt pour les armateurs d'avoir un bateau au-delà de leurs contraintes, que ce soit en termes de confort, si on est dans le grand yachting ou dans la croisière, sur les gros bateaux, au-delà du confort à l'intérieur du bateau, il faut que le bateau rayonne le moins possible à l'extérieur, sinon ils sont taxés quand ils arrivent dans les ports.
Et est-ce que la coque, la forme de la coque, le fuselage peut réduire le rayonnement phonique juste par sa forme?
Non.
Ah.
Non. Clairement non. Alors, sauf sur un bateau qui va vraiment très très vite. Mais bon, c'est pas la plupart des bateaux, mais on n'est pas dans les avions, donc un bateau, non, le bruit, ce qu'on appelle le bruit hydrodynamique, c'est vraiment à la marge par rapport à ce qui peut exister dans les avions. Donc la source de bruit dans les bateaux, c'est vraiment les machines tournantes qui sont à bord, ce sont toutes les pompes, les machines, les moteurs. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut isoler à bord du bateau.
Et dans les avions, c'est pareil. C'est les moteurs essentiellement qui font, qui émettent le bruit rayonnant.
Oui.
Bien. Donc, et les avions, bon, c'est pareil. J'imagine que la coque, enfin la forme du fuselage de l'avion n'influe pas tellement sur le rayonnement phonique, pareil.
Eh bien si, pour le coup. Et là, pour le coup, sur les avions, la forme du fuselage est très importante parce que la source de bruit, contrairement à ce qu'on peut penser, la source de bruit, ce n'est pas forcément les moteurs. On peut penser que ce sont les moteurs, mais non. En fait, la source de bruit, c'est l'écoulement aérodynamique qu'il y a autour du fuselage.
De l'air,
c'est
donc
ça, de l'air. Et parce qu'en fait, un avion, un bateau, il navigue à 15 km/h, en gros. Un avion, c'est 1000 km/h. Donc, l'écoulement, c'est un peu différent. Et donc, ça fait beaucoup de bruit, en fait, cet écoulement autour du fuselage. Donc, la forme du fuselage est super importante. Et quand on entend dans un avion,
ouais.
Et ben, en fait, c'est pas le bruit du moteur, c'est le bruit de l'écoulement de l'air qu'il y a autour du fuselage. Et c'est ça la source de bruit principale. Donc, tous les avionneurs, en fait, que ce soit des grands avionneurs comme Boeing, Airbus, ou des avionneurs privés qui font des jets comme Dassault Aviation, se préoccupent beaucoup de l'écoulement de l'air autour du fuselage. Contrairement à un bateau, ou quelque part, sur un bateau, on s'en fiche un petit peu.
Fort passionnant. Alors du coup, ça m'amène une question subsidiaire. Quand un avion passe le mur du son, donc ça fait un bang, hein, c'est ça. Et là, c'est lié à quoi ce bruit ? C'est l'écoulement. Enfin, c'est un problème d'air ou c'est autre chose ?
C'est un problème d'air. Enfin, le bang. Après, on rentre dans un domaine de l'acoustique qu'on appelle l'acoustique. Je vais dire un gros mot, mais l'acoustique non linéaire, parce que.
On n'a pas peur des gros mots.
C'est pas régi par des équations qui vont bien, voilà. Donc là, on rentre dans le domaine de l'acoustique un peu bizarre. Donc c'est une onde de choc. En fait, c'est l'avion avec son fuselage qui pousse de l'air. Et puis donc il crée du bruit. Hein, tout en poussant de l'air, il crée du bruit. Puis au bout d'un moment, le bruit qu'il crée va être devant lui et puis il va rattraper le bruit qu'il crée. Donc en fait, le bruit...
C'est lié à la vitesse de déplacement du son, c'est ça?
C'est
aussi
ça, donc ouais. En fait, il génère du bruit, donc l'onde sonore est devant lui, et puis tout d'un coup, il va rejoindre l'onde sonore qu'il a créée, et puis là, ça fait une compression d'air, et puis il arrive sur une compression d'air qui est tellement importante que là, ça fait boum.
Mais ça ne lui crée pas de dommages parce qu'il est solide.
C'est ça. Pour en parler aux pilotes d'essai, qui sont les premiers qui ont fait les passages du mur du son. Là, ils rentraient dans l'inconnu, ça devait être assez surprenant. Ouais.
Ça a dû leur faire drôle. Enfin, c'est vrai que comme on est dans l'air, j'ai envie de poser une autre question sur les auras, le bruit de l'orage. Là, il y a un facteur supplémentaire qui est la chaleur, je crois, c'est ça, non, qui crée le bruit. C'est ça.
Le bruit de l'orage.
Ouais, le bruit du tonnerre, pardon.
Ah bah oui, alors ça c'est encore autre chose. Pareil, on est dans l'acoustique non linéaire, c'est un claquement, donc on est dans un autre domaine. Mais oui, c'est un claque, en fait, c'est un craquement de l'air. Et donc quand on voit l'éclair, on entend le son du claquement quelques secondes après. D'ailleurs, c'est comme ça que... Pour info, pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'on peut savoir où se trouve l'orage. Il suffit de compter les secondes, parce que comme le son se transmet dans l'air à 330 mètres par seconde, on compte les secondes, on multiplie par 3 et on sait à peu près où se trouve l'orage.
Voilà. 3 secondes, à peu près 1 km.
Par exemple, 3 secondes, 1 km.
Ok. Voilà. Très bien. Bon, je m'égare. On va revenir vers l'intérieur, puisqu'on a vu en fait toutes ces problématiques de bruit rayonnant vers l'extérieur. Et c'est vrai que ce qui nous préoccupe de plus en plus, je pense, c'est un terme qui revient souvent, la pollution sonore. Donc, on se dit, il va falloir en fait traiter le son à l'intérieur pour des raisons d'esthétique, certes, mais de confort aussi. Enfin, esthétique, ça sera peut-être plutôt pour les studios de musique ou de radio. Et puis, le confort, ça sera plutôt pour l'habitat, c'est ça quand on traite le son à l'intérieur ?
Oui, alors aujourd'hui, il y a pas mal d'exigences sur les nouvelles normes du bâtiment, par exemple, qui ont pris en compte vraiment l'exigence au-delà de la thermique des exigences acoustiques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on fait un bâtiment neuf ou quand on rénove une maison. Il y a des exigences d'isolation d'un habitat à un autre.
Et surtout en collectif, quoi.
Et surtout, et surtout et en collectif, loue, dans les bâtiments, ouais, ouais. Enfin, voilà, dans les immeubles. Et donc là, il y a pas mal de choses à regarder. Bon, c'est le bruit, ce qu'on appelle souvent le bruit, ce qu'on appelle aérien. Bon, c'est les gens qui parlent fort. Enfin, voilà, donc il y a des façons d'isoler des appartements pour éviter justement ce type de nuisance. Mais le plus compliqué à traiter, mais ça se fait quand même plutôt bien, c'est ce qu'on appelle le bruit de choc. Typiquement,
les talons aiguilles, c'est ça ?
Les talons aiguilles ou le petit enfant qui fait tomber des billes dans sa chambre.
Ça, c'est terrible.
Et voilà. Et donc, ça, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à traiter, mais c'est de plus en plus pris en compte. Et il y a des solutions voilà,
ouais, pour éviter
justement. Par exemple,
ouais, comment on fait pour isoler bien ?
Il y a des choses très très simples. On met pas de parquet dans la chambre d'un enfant qui joue aux billes. On met plutôt une moquette. Et si jamais on veut mettre un parquet, sous le parquet, on met une sous-couche et donc qui va faire amortisseur, le fameux ressort dont on parlait tout à l'heure sur les bateaux. C'est le même principe. On va suspendre le parquet et donc à ce moment-là, le bruit de la bille qui tombe. Va être amorti par ce système de suspension du parquet. Voilà.
Donc, sous-couche d'isolant phonique, c'est ça qu'on va mettre plutôt dans les étages, alors qu'en bas, on peut mettre de l'isolant thermique.
C'est ça, exactement.
Et sinon, sur les murs, il faut quoi ? Des murs plus épais pour ne pas gêner les voisins ou est-ce que c'est autre chose ?
La règle de base en acoustique, alors c'est un peu compliqué dans les avions, parce que dans les avions, il faut qu'ils soient légers, mais sur les bateaux, on peut se le permettre. Mais dans le bâtiment, aucun problème. Plus on met de la masse, plus on gagne. C'est-à-dire que vous doublez l'épaisseur de votre mur, vous allez gagner en acoustique. Alors c'est pas évident sur un avion de doubler l'épaisseur du fuselage,
en effet.
Ça, c'est sûr. Sur un bateau, c'est pas évident non plus, mais ça peut se faire. Mais dans le bâtiment, en fait, le secret, il est là. En fait, plus on met de la masse, plus on gagne. Voilà, donc,
Et puis peut-être encore des revêtements de mur, hein, j'imagine, particuliers. Bon, là, on est dans un studio radio qui est revêtu d'une mousse à épines, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Anéchoïque.
Anéchoïque. Ouais, ouais. Alors ça, c'est pourquoi ? C'est quoi la fonction de ce revêtement ?
Une mousse anéchoïque, c'est les petites pyramides. Voilà. Et les petites pyramides, elles ont la même fonction que le sable sur une plage. C'est-à-dire que y a les vagues sur une plage viennent s'atténuer sur le sable. Et ben, c'est exactement pareil sur les ondes acoustiques. Elles viennent s'atténuer sur les petites pyramides que l'on a, ce qu'on appelle... quand on était jeune... On était tout petits, on avait les boîtes 2, on mettait les boîtes 2 pour isoler. C'est pareil, c'est ce qu'on appelle les terminaisons anéchoïques. C'est des petites pyramides qui vont emprisonner l'onde sonore comme le sable emprisonne une vague à la plage. Voilà.
Donc c'est plus pour empêcher la réverbération, enfin que le son rebondisse sur les murs.
Et voilà, exactement. C'est pour éviter toutes les réflexions qu'il y a sur un mur. Et donc, si on veut avoir un environnement très très sourd, très très serein, on met des terminaisons anéchoïques sur les murs. Et à ce moment-là, les ondes ne sont pas réfléchies et on est dans un environnement très feutré.
Et la forme de la pièce, le mobilier, etc., influe aussi, j'imagine, sur l'ambiance sonore d'une pièce.
C'est clair. Vous prenez un appartement vide où vous le meublez de tapis, de canapés, de rideaux, et vous verrez que l'environnement sonore sera complètement différent parce que le canapé, les tapis, les rideaux vont absorber toutes les ondes sonores. Donc ça va rendre, au même titre que les terminaisons anéchoïques qui sont un petit peu techniques, mais sans aller dans ces solutions un petit peu techniques, bah, on apporte de l'absorption. Donc, dès qu'on peut, alors, surtout pas de polystyrène, hein, on est d'accord.
J'ai bien compris. Hein.
Et, mais dès qu'on peut apporter de l'absorption avec des feutres, des tissus qui absorbent le son, et bah, on gagne en confort acoustique dans une pièce. Ouais.
Et est-ce qu'on a inventé des matériaux synthétiques, pour le coup, qui soient très, très efficaces, peu allergisants, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie à la poussière?
Pas franchement, enfin, pas, enfin, de ce que j'en connais, non. Par contre, il y a des inventions tout à fait intelligentes. Typiquement, vous prenez, c'est Mercedes. Je pense que c'est la marque Mercedes qui a été novateur sur le sujet. C'était les premiers à avoir fait ça. Une voiture équipée de sièges en cuir est une voiture pas très confortable parce que justement, il n'y a pas d'absorption à l'intérieur. Donc, mieux vaut avoir des sièges en velours plutôt que des sièges en cuir. Sauf que Mercedes voulait absolument vendre des sièges en cuir. Donc, ils ont trouvé la bonne idée pour que le siège soit absorbant et pour justement diminuer le niveau sonore dans l'habitacle. Donc, ils ont créé des petits trous dans le cuir. Donc, les cuirs perforés qu'on voit maintenant dans toutes les marques, c'est Mercedes qui avait été innovateur, mais aujourd'hui, tous les cuirs qu'on trouve perforés dans la voiture, ils sont perforés non pas pour les problématiques de transpiration.
Oui, c'est ça, moi, c'est ce que je m'étais dit.
Non. En fait, c'est pour des raisons acoustiques. Oui. C'est pour que l'onde sonore pénètre via les petits trous. Plutôt que d'être réfléchie sur le cuir, elle pénètre dans la mousse qui se trouve sous le cuir.
Oui.
Voilà.
Où ça va se loger? Maintenant, il doit y avoir des ingénieurs acousticiens, une armée d'ingénieurs acousticiens qui travaillent pour les constructeurs automobiles, en fait.
Oui. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Moi, je prends l'exemple de Renault à Guyancourt, dans le centre de recherche de Guyancourt chez Renault. Entre les gens qui travaillent sur les problématiques d'acoustique moteur, d'acoustique de carrosserie.
On en parlait, alors là, pour l'extérieur, pour le rayonnement, pour le coup.
Voilà, pour éviter que ça siffle, les problématiques de sifflement sur les rétroviseurs, enfin voilà. Les claquements de portière, que ça fasse.
Un joli bruit.
Glong plutôt que clac, voilà. Tous ces gens-là, je crois qu'ils sont 45 acousticiens chez Guyancourt, juste pour l'acoustique.
Oui, donc là, voilà, on voit que l'avenir du métier est assuré. Et il est peut-être assuré aussi alors, en ville, enfin, auprès des urbanistes, parce que là, c'est pareil, on a des villes donc, qui vont être de plus en plus densément peuplées, paraît-il, et il faut qu'on puisse cohabiter sans que ça soit trop fatigant. Alors, est-ce que là-dessus, il y a des études voilà, sur quel revêtement il faut pour avoir une ville déjà moins réverbérante, enfin, moins brillante, quel mobilier, enfin, je ne sais pas. Sur quoi ça porte, quoi, les études acoustiques urbaines?
Ouais, c'est un vrai, vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet parce que la nuisance sonore, voilà, dans les avions, dans les transports, enfin, on connaît ça depuis un petit moment, mais ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, c'est le bruit de la mobylette qui passe et qui pollue tout le monde. C'est un aéroport qui est assez près de la ville et qui rayonne, qui fait du bruit partout. Comment on se protège de tout ça? Donc,
une cour d'immeuble qui est très réverbérante, dont on entend toutes les voix.
Voire même qui est réverbérante ou qui amplifie les sons. Enfin, et là, il y a des logiciels. Maintenant, c'est vraiment, ça se fait plutôt par le calcul. L'acoustique a été une science plutôt expérimentale pendant longtemps. Mais maintenant, il y a des outils de calcul qui sont très, très pointus, et en particulier dans l'acoustique urbaine, hein, ce que vous citez. Et l'acoustique urbaine, il y a des logiciels en fait, qui prédisent les protections qu'on peut mettre et quel va être leur impact bénéfique ou pas. Je vais citer un exemple, hein, il y en a eu plein comme ça. À l'époque où l'acoustique était purement expérimentale, on mettait les murs anti-bruit autour du périph à Paris.
Oui,
par exemple.
Ça, j'en ai vu. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Les murs anti-bruit.
Est-ce que ça fonctionnait?
Oui, ça fonctionne très bien.
Ouais.
Mais il y a eu des impacts plus que négatifs. C'est-à-dire que ça marchait très très bien pour la maison qui était derrière. Et un immeuble qui se trouvait à 3 km derrière le mur anti-bruit, d'habitude, il n'entendait pas le bruit du périph. Et quand le mur anti-bruit a été mis en place, et là, l'immeuble a été complètement inondé de bruit qu'il n'avait pas avant. Parce qu'en fait, le mur a eu un effet négatif.
Donc, ouais, parce que l'onde sonore, elle était en fait renvoyée, enfin, elle passait par-dessus le mur et puis elle était renvoyée avec un angle différent, c'est ça.
Voilà.
Donc les étages supérieurs de l'immeuble, ils se prenaient tout. Quoi.
Avant,
ça passait en bas, quoi.
Et là, sauf que là, le mur, il faisait ricocher, diffracter, en fait.
Oui, diffracté,
le mur diffractait l'onde sonore. Mmh. Donc l'immeuble qui n'entendait rien, finalement, il s'est mis à entendre plein de choses. Donc ça, c'était dans les années 70-80. C'est assez vieux quand même. Hein. Et depuis, il y a des logiciels qui permettent de prédire tout ça. Et donc, on a, si je prends l'exemple de la ville de Paris, il y a des cartographies de bruit de la ville de Paris, avec ou sans protection, qui se font très très bien. Et ça se fait que par calcul. Et puis les calculs sont plutôt, aujourd'hui, sont plutôt validés. C'est plutôt pas mal, ouais.
Et est-ce qu'on a recours à la végétalisation ? Alors, la végétalisation en ville a plein d'avantages, hein, qui sont liés au climat, à la température et tout. Mais est-ce que ça, c'est aussi utile pour l'acoustique urbaine ?
Alors là, joker.
C'est pas encore étudié. Mais, non, mais est-ce joker, que, par exemple, une façade végétalisée, on sait bien que ça va quand même absorber une partie des bruits. Enfin, on suppose, non ? Enfin,
c'est sûr, ça va dans le bon sens. Alors, quel est le gain ? Je sais pas. Mais oui, ça va dans le bon sens. Ce serait plutôt pas mal. Si on peut végétaliser toutes les façades, ça ira dans le bon sens, ça c'est évident.
Après, on a d'autres problèmes d'entretien des plantes, etc. Mais bon, ça, là, on parle juste d'acoustique. On arrive à la fin de cette émission déjà, Stéphane. Merci beaucoup.
Merci.
Et n'hésitez pas à réécouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion, qui change de nom, qui devient Transistor. Mais pour l'instant, l'adresse est toujours radioévasion.net. Dans un instant, la deuxième partie de l'EM avec de la sociologie dans la cour de récréation.